France Info.
Bonjour Violette d'Orange.
Bonjour.
Vous êtes cette navigatrice et skippeuse qui a marqué les esprits lors de votre première participation à la course mythique Le Vendée Globe en 2024-2025. Il faut dire que vous êtes un personnage aussi attachant que drôle, solaire. La voile est donc votre passion depuis très très longtemps. Il faut dire que vos parents vous ont inscrit très jeune avec votre grande sœur Rose et votre grand frère Charles à la société des régates Trochelaise. Et en 2016, ça a payé car vous êtes devenue la première jeune fille à traverser la Manche sur votre optimiste en 15 heures. Aujourd'hui, vous sortez votre carnet de bord intitulé Mon premier Vendée Globe paru chez Gallimard, en collaboration avec Patricia Joly. À l'intérieur, on y découvre votre univers, vos dessins, votre histoire, et on comprend à quel point la voile fait partie de vous, tout comme les océans, le besoin de vous dépasser, d'oser, d'y aller. La voile, c'est donc votre meilleure amie, c'est une confidente.
C'est un peu tout, c'est le départ vers l'aventure, c'est aussi le moment où je suis en solitaire, donc c'est aussi un moment où je me retrouve un peu face à moi-même. Je dois me dépasser, je dois me challenger auprès des autres concurrents, mais c'est aussi un moment avec moi où je pense que ce carnet, il vient de là aussi, c'est un moment où j'ai plein d'inspiration, plein d'idées, je sais quelles sont les priorités de ma vie.
Vous démarrez en remerciant vos parents, vous dites « si j'ai osé, c'est grâce à mon père, si j'ai eu confiance, c'est grâce à ma mère, si j'ai eu envie de me dépasser, c'est grâce à mon frère, et si je trouve l'inspiration dans ma vie de femme, c'est grâce à ma sœur ». Ils vous ont tous les quatre permis de devenir la femme que vous êtes devenue aujourd'hui ?
Ah oui, c'est sûr. On est très proches, tous les cinq, et on se soutient dans nos projets, et c'est vrai que mon père, il m'a beaucoup aidée dans mes projets, à aller trouver les financements auprès des entreprises, présenter mon projet, aller oser en fait dire oui, je veux faire le Vendée Globe. Et au tout début, c'était je veux faire la traversée de la Manche en optimiste. Ça a commencé comme ça et donc ça a un peu commencé avec mon père et puis toutes les autres personnes de ma famille, ma grande sœur. C'est ma grande sœur quoi, je suis toujours inspirée par elle. C'est une femme incroyable. Ma maman, elle parle beaucoup du destin. Elle est là quand il y a des moments durs, elle a toujours les bons mots et elle m'avait écrit plein de petites choses pour partir sur ce Vendée Globe et ça m'a porté tout du long. Et puis mon frère, quand on était petit, on a 3 ans d'écart et pourtant on ressemblait un peu à des jumeaux parce qu'on était tout le temps en train de se chamailler et de se dire ah, est-ce que t'arrives à grimper cet arbre, oh, est-ce que t'arrives à marcher sur les mains, et enfin c'était tout le temps en permanence le challenge. Il m'a appris à être compétitive et à me dépasser.
Vous racontez tout ça hein, dans cet ouvrage, on a l'impression d'être au cœur du jardin familial avec vous. Effectivement, on vous imagine même en train de grimper aux arbres et à marcher sur les mains. Vous avez démarré à l'âge de 7 ans effectivement sur un optimiste. Donc ce bateau créé pour les enfants jusqu'à leurs 15 ans. Vous avez mis du temps quand même à tomber amoureuse de la voile. Hein. Vous avez tenté quand même d'esquiver plusieurs fois, d'arrêter, de passer à autre chose et tester plein de sports, d'ailleurs vous le racontez. Et c'est effectivement la persévérance entre guillemets de votre père qui va jouer en sa faveur et en la vôtre du coup et changer un peu le destin. Il vous emmenait régulièrement au départ de course de Jean-Pierre Dick avec son petit Zodiac où il aidait et vous étiez à bord de ce Zodiac et c'est là aussi que vous croisez pour la première fois Samantha Davis que vous regardez très très loin, mais qui très vite représente quelque chose de très fort pour vous.
Oui, c'est ça. C'est vrai que la voile, au début, c'était pas vraiment une passion, on va dire. Et j'y allais un petit peu à reculons, parce que quand on est petit, il fait froid, il faut mettre la combi mouillée pour aller dans le vent fort dehors. Et puis, j'étais sur un tout petit bateau, l'optimiste qui avance pas, qui est pas non plus, quand on est petit, c'est pas forcément le plus fun, mais très vite, j'ai aussi découvert les compétitions, les courses à l'étranger, les championnats du monde, championnats d'Europe, etc. Et je me suis dit, mais en fait, grâce à la voile, je peux voyager, je peux entrer dans les équipes de France jeunes et au niveau, et j'ai commencé à avoir une première accroche, et puis ensuite, oui, il y a la course au large, le rêve de partir loin et traverser les océans, ça je l'ai découvert bien après, et pour moi ça c'est fabuleux de se dire qu'on va d'un point A à d'un point B avec la force du vent, c'est incroyable.
Le point de départ d'ailleurs, c'est quand même le déclic, hein. C'est à 9 ans, vous arrivez deuxième d'une course qui est très importante, vous arrivez deuxième de la Coupe internationale d'été, donc première fille, puisqu'encore une fois, vous concourez avec les garçons. Peu de temps après, vous disiez à votre frère, votre sœur et votre père dans la voiture qui vous ramenait de La Rochelle à votre petit village de Pont-l'Abbé d'Arnoux, quand je serai grande, je ferai le tour du monde à la voile et je veux une vie d'aventure. Vous le saviez quand même déjà dès le départ, j'ai l'impression, Violette, que vous étiez faite en tout cas pour ne pas rester assise derrière un bureau mais pour faire autre chose.
Ça c'est sûr, oui, c'est sûr que depuis toute petite, en fait j'ai été un peu baignée par les histoires de Mike Horn et j'ai toujours trouvé ça dingue de les vies de ces personnes qui partent comme ça et qui partent en tant qu'explorateurs ou aventuriers qui traversent les océans. Et ça, c'est sûr que je me suis toujours dit, mais quand je serai grande, je ferai quelque chose comme ça. Ou je partirai faire un tour du monde en famille, ou alors je vivrai à l'étranger, etc. Et c'est en parlant comme ça, j'en parle depuis toute petite, et en parlant dans la voiture, où on s'est dit, mais ce serait trop drôle de faire ça en optimiste, parce que je venais de terminer un peu, on va dire, ma carrière en optimiste, donc j'avais fait 8 années, et on s'est dit, mais bon, on peut pas traverser l'Atlantique en optimiste parce que c'est un peu long quand même et c'est pas faisable, enfin, ou alors c'est très compliqué. Mais par contre, on peut traverser la Manche en optimiste. Et donc, on a préparé le projet pendant un an, on en a parlé un peu autour. Et c'est là où aussi mon père a eu ce rôle d'aller oser. C'est que moi, c'était une idée comme ça que j'ai lancée. Et puis, je me suis dit, je ferai ça plus tard. Et ou même, je ferai jamais, ou c'est juste un rêve. Et lui, il a dit, mais non, faut en parler à ton premier petit sponsor, il va être peut-être partant, etc. Et là, on a monté le projet après un an.
Vous soulignez quelque chose de très important en parlant des parents, c'est que vous dites, moi, mes parents m'ont toujours soutenu et encouragé, mais ils ne m'ont jamais coaché.
Oui.
Ouais. Ça joue énormément, Violette. C'est important de le préciser, ça.
Bah oui, oui. Il y a les coachs d'un côté qui sont vraiment là pour nous dire, bah là, tu navigues pas bien, t'as fait telle erreur, tu dois t'améliorer là-dessus. Et après, les parents qui ont eu un soutien fort, mais qui n'ont jamais jugé ma navigation, qui m'ont jamais dit, tu devrais faire ça, tu navigues pas bien, regarde tout ce qu'on fait pour toi. Ça, non, jamais. Ils ont toujours été là, bah justement pour me soutenir. Et quand c'est dur, quand on a des remarques parfois dures des coachs, bah justement. Justement, là, ils sont là derrière pour dire « Allez, tu sais pourquoi tu fais ça, faut continuer, c'est le chemin, faut apprendre, etc. » Donc, on a eu de la chance d'avoir des parents comme ça qui s'engagent aussi à nous aider dans les déplacements parce que les parents des enfants, parfois, ils faisaient aussi un peu la garderie pour tous les autres enfants quand on partait en déplacement sur les courses. Et non, non, ils ont toujours été présents là-dessus et au mieux.
Vous avez compris très vite. Parce que finalement, il y a une maturité très jeune hein, quand même chez vous, Violette. Vous avez compris très vite que vous aviez un souci avec la pression, avec le stress. Et vous avez beaucoup travaillé avec une sophrologue. Elle vous a beaucoup aidé d'ailleurs à devenir aussi forte mentalement que vous ne l'êtes aujourd'hui dans une course, notamment dans le Vendée Globe. Ça, c'était aussi l'une des facettes de votre personnalité. Est-ce qui vous rend plus forte, ça?
Oui, ça a été le point fort, en tout cas dans ma navigation, c'était que j'ai travaillé la préparation mentale et par exemple, dans mes débuts en course au large, il y a plein de moments où on traverse des premières peurs, les peurs des premières tempêtes, de la casse matérielle, de plein de choses. Et elle m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris à ses côtés, aux côtés de Muriel Picamol, qui était coach mental, sophrologue. Et donc, on a travaillé beaucoup de choses, le sommeil, le fait d'être déterminé, de savoir aussi affronter la douleur si jamais ça arrive en mer, de vaincre toutes ces peurs aussi.
On parle des peurs, justement. Je voudrais qu'on parle du 64e jour de cette traversée de ce Vendée Globe. C'est un moment très important, fatidique, ouais. Qui aurait pu d'ailleurs faire basculer votre course vers, entre guillemets, un drame et un arrêt, ça c'est sûr. Vous perdez un élément de la voile, ce qu'on appelle la tête de voile.
En fait, c'est une petite voile d'avant qui est une voile de tempête. J'étais dans des conditions très compliquées, il y avait beaucoup de vent, il y avait bien 4 mètres de houle, 35 nœuds. J'étais partie dormir pendant une heure et je me réveille et je vois quelque chose par le hublot qui traîne dans l'eau. Je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Je sors en courant et là, je vois que c'est ma voile d'avant, donc ma petite voile d'avant qui est tombée dans l'eau. Et en fait, c'est une pièce qui a lâché en haut du mât. Et donc, elle était encore attachée par les pièces en bas, mais elle traînait dans l'eau. Et ça, dans 35 nœuds, 4 mètres de houle, ça m'est jamais arrivé. Enfin, vraiment, je savais pas trop comment gérer ça et je me suis retrouvée à essayer de la récupérer. J'ai eu super peur parce que c'était chaud, quoi. Enfin, c'est vraiment, faut s'imaginer dans la tempête en train d'essayer de ramasser quelque chose dans l'eau alors que le bateau avance. Et au moment où j'ai réussi à la ramener petit à petit à bord, donc ça a duré une bonne heure pour que je puisse trouver la solution, saucissonner la voile, la ramener petit à petit. Au moment où je veux la ranger dans la soute de mon bateau, on a une petite porte qui nous permet de mettre les voiles dans la soute. Cette porte s'arrache, et sauf que ça je me retrouve avec un trou béant de, je sais pas, un mètre carré, quoi, qui reste rentrer l'eau vraiment par vague. Par chance, la porte n'est pas tombée dans l'eau et elle est restée sur le pont. Elle s'est juste arrachée sur le côté. Donc j'ai sauté dessus, j'ai terminé de ranger ma voile et j'ai pu la remettre et je l'ai réparée plus tard quand le vent s'est calmé. Mais ça, c'était vraiment une journée super dure. Il faisait froid. Enfin, j'ai vécu vraiment quelque chose de un peu horrible. J'ai eu d'autres moments très très compliqués dans le livre que je raconte, mais ça, c'est un des moments dont je me souviens. C'était vraiment chaud.
Quel a été le pire moment pour vous, alors?
Bah, je pense que ça fait partie de la journée la plus difficile. Et après, il y a eu une autre journée aussi assez compliquée où j'ai dû monter au mât. J'ai dû monter deux fois au mât pendant mon tour du monde. Et la deuxième fois, il y avait des vagues et en fait, j'avais pas le choix que de monter maintenant et je pouvais pas attendre que le vent se calme. Et en fait, je me suis fait balader dans le mât à cause des vagues et c'était un peu terrible. J'ai cru que j'allais me casser un bras. Enfin, c'était vraiment pas...
Quelles sont vos plus grosses peurs, alors, Violette? Celle que vous continuez à combattre malgré la sophrologie, malgré les techniques de respiration et...
Le plus grand risque quand on est en mer, c'est de tomber dans l'eau. Après, il y a là sur le bateau sur lequel j'étais cette année, c'est les chocs. Il faut en permanence se tenir, mettre des casques à certains moments parce qu'il peut y avoir des chocs très très violents et ça correspond à un accident de voiture. Sauf qu'on n'est jamais attaché et voilà. Et puis il y a des peurs qui sont moins, c'est moins dans le danger, mais des peurs de traverser des tempêtes, se dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais arriver à ne pas casser mon bateau, ou si je casse, est-ce que je vais être capable de réagir et de m'en sortir. Et ça, c'est des peurs qu'on combat toujours.
Et bien d'ailleurs, j'espère. Vous démarrez ce carnet de bord en racontant votre Everest à vous, votre Everest des mers, le Vendée Globe. Ça représente quoi pour vous cette course?
Pour moi, c'est le Graal pour tous les navigateurs. C'est vraiment un tour du monde en solitaire sur un bateau qui est immense, je le trouve encore. C'est le bateau, il fait 60 pieds, donc ça fait à peu près un peu plus de 18 mètres de longueur. On passe par des océans qui sont très peu connus par tous les navigateurs, mais c'est les mers du Sud, le passage du Cap Horn, le passage du Poteau Noir au niveau de l'Équateur, et tout ça, c'est l'inconnu, quoi. C'est la vraie aventure pour moi. Et à côté de ça, il y a le côté compétition, parce que c'est sur des bateaux où il y a de la haute technologie, il y a des bateaux avec des foils, il y a des bateaux sans foils, il y a de la performance pure, il y a de l'excellence sur ce milieu de course au large. Donc ça, ce mélange, c'est un peu la chimie parfaite entre la performance et l'aventure.
Vous parlez justement des bateaux avec foil que vous avez appris à piloter là, grâce à Samantha Davis. J'imagine que ça a changé aussi beaucoup de choses. Ça, le fait ouais. qu'elle vous passe le témoin, qu'elle vous apprenne les choses, qu'elle vous prenne sous son aile.
Sam, c'est mon idole déjà depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, j'allais la voir sur les pontons. Enfin, j'ai vu une fois et j'ai couru pour avoir une petite signature. Et donc avoir la chance de naviguer avec elle, c'est déjà incroyable. Après, le bateau, c'est un bateau à foil. Pour le coup, là, il y a vraiment de la technologie à bord. C'est un nouveau challenge d'arriver à gérer ce type de bateau. J'ai l'impression de changer de catégorie concrètement parce que c'est plus une fusée qu'un bateau parfois. On est à l'intérieur, ça va super vite. Ça va 2 à 3 fois plus vite que sur mon bateau sur lequel j'étais sur le Vendée Globe.
Ça monte à 65 km/h. Hein. Bon, ça veut dire que si un impact est en, vous dites d'ailleurs, de temps en temps, ça pique, ouais. Ça veut dire qu'effectivement, c'est comme un accident.
Oui, ça peut être super dangereux. Et là, sur ce type de bateau, on va toujours jouer avec un peu la limite. Il faut pousser le bateau au maximum, mais il y a une limite, c'est que ça casse après. Et donc, on est en permanence en train d'être le plus proche possible des alarmes qui protègent le mât. C'est hyper intéressant. C'est un nouveau challenge, je trouve. Cette année, j'ai appris énormément de choses. Et puis aussi, il y a l'ensemble du projet Initiative Cœur. On navigue pour sauver les enfants qui sont atteints de malformations du cœur et qui vont être opérés par mécénage chirurgie cardiaque. Et en donnant de la visibilité grâce à notre projet, en racontant notre histoire sur les réseaux sociaux, dans la communication, on donne de la notoriété aux sponsors et c'est un clic, un cœur. Pour chaque clic sur les réseaux sociaux, en fait, derrière, c'est de l'argent qui est reversé par les sponsors pour sauver les enfants, donc c'est magnifique.
C'est ce qui vous plaît à travers tout ça. Depuis 89, cette course a lieu tous les 4 ans. Michel Desjoyeaux disait que tout le monde pouvait vivre cette aventure. Vous êtes d'accord avec ça?
Moyennement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas être sur un bateau comme ça, tout seul au milieu de l'océan. Après, c'est tout s'apprendre. Enfin, j'ai un peu l'impression que dans la vie, on peut apprendre à naviguer ou alors on peut apprendre à être musicien. Les voies sont un peu ouvertes. Après, c'est des projets qui sont très très durs. Enfin, je pense qu'un tour du monde, tout le monde peut le faire avec une bonne préparation. Après, un Vendée Globe, c'est quand même une montagne pour trouver les financements. Et ça a été tellement dur. Je suis pas sûre de partir sur un projet comme ça en ayant tout le savoir, toute l'expérience que j'ai eue. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment très très dur et je sais pas si je l'aurais fait en sachant tout ça.
Bon, en tout cas, vous avez eu une vraie ascension. Vous avez fait le 4-20, bateau de 4,20 m, le 6-50, Figaro 3. Et puis effectivement, là, vous passez de plus en plus dans la cour des grands avec effectivement ces bateaux avec foil qui sont devenus des fusées. C'est ça l'école du grand large? C'est de grandir au fur et à mesure?
Ouais, je suis passée très très rapidement par toutes ces catégories, mais je les ai toutes faites et c'était le chemin de vraiment d'aller faire du 4-20 en sport-études au lycée et d'être en internat pour me préparer au mieux aux courses internationales et puis après de découvrir la mini transat où là c'est une traversée de l'Atlantique, c'est pas une mini transat, mais par contre c'est C'est sur un petit bateau et on doit tout gérer l'aspect communication, recherche de financement, mais aussi préparation du bateau, météo, etc. Et ça m'a donné énormément d'expérience pour la suite. Et puis après, le Figaro, c'est une catégorie où on est sur des bateaux qui font à peu près 9 mètres. Et c'est l'école de la course du large où il y a tous les grands navigateurs sont passés par là pour se former. Et donc là, c'était des années où on fait que de naviguer et on fait des courses qui sont hyper dures, la solitaire du Figaro. Donc c'est tout ce parcours-là qui m'a amené au Vendée Globe.
Je voudrais qu'on parle d'une date, le 14 février 2021. C'est le jour de la fête des amoureux. Et vous avez déclaré votre flamme définitivement à la voile et à la mer ce jour-là. Il s'est passé quoi?
C'était l'annonce de mon projet Vendée Globe. C'est vrai que j'étais...
J'avais 19 ans.
Oui, en fait, c'est à ce moment-là où je l'ai annoncé officiellement sur les réseaux sociaux. Parce que dans ma tête, je savais que je voulais faire ce Vendée Globe. Mais en fait, pour démarrer un projet, c'est un peu contradictoire. Avec il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en fait dans le milieu sportif, moi c'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours parler de son projet pour pouvoir le préparer, parce que sinon ça on n'avance pas. Et c'est comme ça qu'on s'engage.
Vous écrivez que votre plus gros soutien, finalement, au-delà des sponsors, au-delà de votre famille, ça a vraiment été le public. Vous racontez, c'est assez fou d'ailleurs, ce moment où vous arrivez, où votre prénom est scandé par des centaines de personnes. Il y a même des personnes qui ont affronté leur mal de mer pour venir jusqu'au ponton pour vous saluer. Il s'est passé quelque chose d'énorme à ce moment-là dans votre vie, Violette. Vous avez pris conscience, effectivement, de l'ampleur. On vous a accueilli comme la vainqueur. Et c'est assez fou. Vous étiez 25e et tout le monde a célébré cette arrivée, parce que vous aviez réussi tout au long de cette aventure humaine extraordinaire à partager vos émotions et les gens vous ont suivi.
C'était complètement fou. Je ne m'attendais pas à autant de monde sur le chenal des Sables d'Olonne. Et en fait, il y avait beaucoup d'émotions. On sentait que tout le monde était heureux d'être là et rassemblé autour d'une arrivée. Et c'était trop, trop beau. Et puis encore tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « Oh, ça nous a touchés ». C'est drôle parce que parfois, j'ai l'impression d'être une grande sœur pour certains, la petite sœur pour d'autres. Les gens sont hyper proches et c'est trop chouette. J'ai une chance incroyable. Et j'ai réussi, grâce aussi à toute l'équipe derrière, on a réussi à partager cette aventure. Mais il y a aussi tous les autres navigateurs. On a tous vécu quelque chose de dingue et d'unique en mer. On a tous des histoires fabuleuses. Donc j'ai eu cette chance-là, mais j'ai eu heureuse pour le milieu parce que peut-être on a réussi justement à parler de nos aventures en mer à un public encore plus large. Et c'est génial, mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a aussi plein d'autres navigateurs qui sont fabuleux.
En tout, il y a 40 noms qui sont alignés en règle générale. Vous voulez faire partie des 40 sur la prochaine édition, inévitablement.
J'espère.
Juste un mot sur justement cette arrivée-là. La notoriété, ça a été difficile pour vous, cette célébrité, entre guillemets.
C'est qu'il faut apprendre à gérer. Et au tout début, moi, c'est arrivé d'un coup. Et ça, c'est vrai que c'est dur parce que je n'avais pas forcément les codes et je ne savais pas comment gérer ça. Et puis, c'est aussi que mon planning s'est retrouvé rempli du jour au lendemain à mon arrivée. Arrivé du Vendée Globe et j'ai même pas eu le temps de raconter le Vendée à mes proches, de retourner voir ma mère chez moi en Charente-Maritime. J'étais happée par plein de choses, plein de sollicitations incroyables, donc j'étais trop contente d'avoir, mais je pouvais pas répondre à tout, il fallait que je fasse des choix et c'est ça, c'est cette intensité de planning qui a été dure à gérer, savoir faire les bons choix, c'est parfois compliqué ou savoir dire non. Et puis après dans la vie de tous les jours, c'est apprendre à gérer s'il y a des personnes, quand les personnes viennent me solliciter, c'est avoir les bons mots et savoir comment réagir, parce que c'est dur d'être engagé partout. En fait, je ne pouvais pas me dédoubler.
Vous nous racontez plein de choses, évidemment. On plonge à travers cette aventure qu'on a suivie à travers vous, à travers les réseaux sociaux, avec cette communication qui était devenue essentielle, d'ailleurs, dans vos journées très, très vite. Vous nous racontez le passage du Cap Horn. Vous nous racontez ce moment où il y a effectivement le point Nemo. C'est particulier parce que c'est aussi appelé le pôle océanique d'inaccessibilité. C'est le summum d'isolement sur notre planète. Quel est votre rapport à la solitude, Violette?
J'aime bien. C'est pas une solitude comme on peut ressentir, je pense, à terre. Il y a vraiment la solitude qui existe et c'est pas du tout la même chose parce que nous, on part en mer et déjà, on fait le choix de partir et après, on sait qu'au fond, on n'est pas seul parce que j'avais mes concurrents autour, tout le public qui suivait, qui m'envoyait des messages et aussi mes proches qui étaient très présents. Et c'est un peu paradoxal, mais sur ce Vendée Globe, et j'en parle beaucoup dans mon carnet, je raconte un peu les échanges, mais c'est un moment où je me suis sentie senti hyper proche de ma famille parce qu'ils m'avaient préparé des petites attentions, parce que je les appelais tous les dimanches sans exception et que je leur racontais ma vie. Je faisais des vocaux à ma sœur où elle me racontait sa vie de femme, de ses petites anecdotes qu'elle vivait tous les jours. Et non, c'était un moment où je me suis pas du tout sentie seule.
Bon, avec évidemment pendant 3 mois cette aventure qui vous a changé. Avec le recul, là d'ailleurs, Violette, quand vous avez relu vos notes pour préparer ce carnet de bord, qu'est-ce qui a le plus changé selon vous, chez vous ? Vous dites, vous terminez là-dessus d'ailleurs cet ouvrage, en disant qu'on ne revient jamais indemne d'un Vendée Globe. Qu'est-ce qui a le plus changé chez vous ?
Je pense que j'ai gagné un petit peu en confiance en moi sur toute la partie navigation. Je le raconte dans le carnet, il y a plein de moments hyper durs où je me dis, si je m'en sors, je suis une warrior. Si je m'en sors, je suis une warrior.
Une guerrière, même.
Je me répétais ça, ou une guerrière, je me répéter ça pour pouvoir pas lâcher quoi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est la confiance. Je me dis, j'ai réussi à faire ça, donc je suis capable de continuer. Je suis capable d'en refaire un deuxième, et voilà.
Est-ce que le fait que cette course oblige les garçons et les filles à concourir ensemble est une fierté pour vous ? Parce que finalement, on ne concourt pas pour une différenciation de sexe, entre guillemets, mais pour gagner sa place de marin.
Oh, je trouve ça génial. Il n'y a pas de catégorie ni d'âge, ni de sexe. Les handisports sont avec nous. On est tous ensemble. Et ce qui va faire la différence, c'est comment on va bien gérer notre effort pendant toute la course, comment on va gérer notre bateau, le protéger, mais en même temps le pousser à son maximum. Et en fait, on peut vraiment se battre à la même hauteur que les garçons, même si on est parfois moins physique et que pour faire le changement de voile, on va mettre 20 minutes de plus. Bah derrière, on peut rattraper notre retard avec une bonne stratégie ou parce qu'on a pris soin de nous et qu'on a plus d'énergie à un certain moment. Et ça, c'est trop génial et ça m'a toujours porté de me battre avec les garçons pendant tout mon parcours parce que avant on était quand je faisais de la voile légère, c'est dissocié, il y a le classement féminin et le classement masculin, mais parfois on courait en mixte et quand on courait en mixte, moi ce que je jouais c'était d'être devant les garçons parce que ça les énervait quand on était au niveau de l'adolescence. Et donc là aujourd'hui je trouve ça génial d'être tous ensemble.
Est-ce que votre plus grande fierté n'est pas d'être cette jeune fille qui a donné à d'autres jeunes filles l'envie d'y aller, de repousser leurs limites? Et vous dites d'ailleurs régulièrement qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Vous la représentez, cette jeunesse, Violette. C'est ça, la plus grande fierté?
En fait, sur le Vendée Globe...
Le plus gros challenge, en quelque part.
Sur le Vendée Globe, on portait les couleurs d'Apprenti d'Auteuil et je suis toujours la marraine de cette fondation qui accompagne la jeunesse en difficulté à plein d'âges différents. Pour moi, c'est la plus grande des victoires. Quand je vois des petites filles qui se sont dit, je me suis inscrite à la voile parce que j'ai vu que tu faisais de la voile et j'ai suivi ton projet. Et ça, c'est trop chouette parce que la voile, c'est un sport mixte. Tout le monde peut le faire. Et pourtant, c'est un sport très masculin parce que je pense que c'est l'histoire qui fait, c'est le stéréotype qui font que les filles y allent moins. Mais pourtant, il n'y a pas de raison. C'est la plus grande des victoires, c'est de pouvoir pousser la jeunesse à se réaliser, soit les amener à la voile ou à ces sports-là, soit les amener au sport en général. Et puis aussi, la jeunesse à réaliser ses rêves. Un métier passionnant ou alors lancer des projets qui leur font rêver.
Bon, donc la prochaine étape, c'est le Vendée Globe de l'édition 2028-2029.
J'espère.
Le sablier est engagé là.
Oui, j'espère pouvoir participer au prochain Vendée Globe. J'essaierai.
Je rappelle que vous êtes la plus jeune à avoir réussi à réaliser et à boucler ce Vendée Globe. Merci Violette Dorange d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci.
Votre carnet de voyage, mon premier Vendée Globe, est sorti aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci Élodie.